Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bienvenue. Les Toulousains de Toulouse vous proposent cette chronique Demeures et familles pour partir à la visite des hôtels particuliers, des grandes familles qui ont fait Toulouse et qui sont en relation souvent avec des propriétés à la campagne. Alors aujourd'hui, en compagnie d'Aline Thomazin et notre éternel complice Michel de Rivoire, eh bien nous allons chez un personnage assez considérable dans un hôtel connu de nom, mais finalement assez peu visité, hélas.
Oui, on va y revenir parce qu'on va voir que c'est quelque chose d'exceptionnel, Michel.
C'est exceptionnel, mais c'est surtout... Enfin, on va parler autre chose que de parlementaire de Capitoul et de vieille famille
terrienne. Là, pour le coup, on est avec quelqu'un que vous allez nous présenter.
Alors, nous allons parler des Dubarry à Toulouse.
Voilà, la famille Dubarry.
Et aussi à Lévignac. On va sortir de Toulouse où ils ont deux adresses, on va en parler. De ces deux adresses. La plus, disons, qui va retenir notre attention aujourd'hui, c'est celle qui est située 3 Place Saint-Sernin.
Oui.
Aline.
Eh oui, le lycée Saint-Sernin.
Le lycée Saint-Sernin.
Et cette magnifique façade 18e que l'on voit.
Oui, elle est magnifique dans son décor, mais elle est un peu triste,
elle est
un peu terne.
On est à la fin du 18e quand même.
Voilà, dans les années 1780.
Elle est classique.
Elle est classique et elle est classée.
Oui. Mais elle cache.
Alors, ce qu'elle recèle.
Voilà. Et d'abord, le personnage là, parce que quand même, pour faire construire ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Alors, d'où lui vient la fortune?
Bon, Dubarry. Dans l'esprit de chacun de nous, c'est Comtesse Dubarry.
Favorite.
Alors, pas uniquement les plats cuisinés, mais c'est surtout la favorite. Alors, ce n'est pas le propos de notre chronique de parler de Madame Dubarry, mais elle a donc deux personnages, parce qu'elle ne s'appelle pas Jeanne Dubarry. Elle le devient.
Jeanne Bécu,
qui devient Madame Dubarry, l'épouse d'un des deux frères Dubarry, qui eux sont gascons, ils sont tout à fait de notre région, l'aîné Guillaume et le cadet Jean-Baptiste.
Mais ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir quel était le rôle de Jean Dubarry dans cette affaire.
C'est un traquenard, bon, je crois que...
Soyons clairs, il était proxénète.
Voilà, Paris, pas à Toulouse.
Paris. Et c'est là qu'il a rencontré Jeanne Bécu.
Voilà, et qu'il a mis dans le lit du roi.
C'est que le roi en tomberait.
Et que le roi, le bien-aimé, inconsolable de la perte de Madame Pompadour, n'est-ce pas? On est après 1764, avec cette jeune et fraîche Jeanne Bécu. Il fallait qu'elle soit présentée à la cour, mais...
Mais elle n'était pas née, donc il l'a fait épouser par son
frère. Et titrée. Bref, on est dans une aventure absolument hors norme, qui a beaucoup alimenté les chroniques, mais aussi l'art français.
Elles n'avaient pas que des bontés d'alcôve, les favorites du roi.
Elles
avaient aussi une grande influence sur les commandes artistiques et la diffusion des arts.
Et c'est ce que nous... Voilà, tu as tellement bien dit les choses, Sébastien, que c'est ce que, au fond, il faut retenir de cette histoire pour Toulouse. Parce que ce trio, ne rentrons pas dans les détails historiques, mais ce trio a livré l'hôtel dont nous parlons, donc Place Saint-Sernin, on va décrire un petit peu tout de même, le château de Rennerie. On dit beaucoup la Rennerie, mais en fait, originellement, c'est Rennerie, R-E-Y-N-E-R-I.
La petite folie à la campagne.
La folie à la campagne. Complètement à la campagne à l'époque.
Ah oui, oui,
complètement.
Oui.
Qui est donc, rappelons-le, entre Purpan et l'Ardenne, si vous voulez, dans ce secteur, à flanc de coteau, de la terrasse, de la première terrasse de Garonne. Et le troisième bâtiment, tout à fait de cette période Louis XV-Louis XVI, transition, sur la commune de Lévignac, qui est donc aux confins du Gers, et que peu connaissent finalement.
Il y a une grosse partie 19e qui masque un peu.
Qui est un peu de style troubadour, enfin ça a été amélioré, mais qui avait de très belles, je crois, de toiles peintes de Valar, et qui ont aujourd'hui le destin de cette maison dont nous n'allons plus reparler dans cette chronique, a été de mise en copropriété, mais il était ruiné. Avec des dépendances énormes, considérables. Et donc, mais c'est une une chose assez curieuse qui reflète la richesse subite donc de ces deux messieurs du Barry qui ont été récompensés alors, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et comme tu l'as dit, Sébastien, pour décorer ces deux... Alors, la maison de campagne, la folie, n'est-ce pas ? Il n'y a pas tellement de décors faisant appel à des artistes, peintres ou sculpteurs. Il y a quelques sculptures, des gypseries, voilà. Oui. Des trophées, des choses comme ça. Mais on est vraiment à la campagne. Et même, je veux dire, le plan qui ressemble un petit peu à Bagatelle, pour ceux qui connaissent.
Voilà, c'est simple et léger.
C'est simple et léger. Oui, exactement. Comme l'histoire que nous racontons. Alors que, n'est-ce pas, on va se concentrer sur l'hôtel de Toulouse. Alors d'abord, il faut dire, c'est comme l'introduction. On est tellement extravagant qu'on n'est pas dans le centre. On est même au plus haut de la ville-centre.
Ah oui, 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 on est dans le faubourg.
Oui,
c'est un certain.
C'est assez curieux comme implantation.
Intramuros.
Alors,
le quartier... pourquoi ce choix c'est...
Fin 18e, c'est étonnant, parce qu'on est quand même...
Non, mais le quartier n'a pas la forme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place, la basilique est dans son enceinte monastique,
oui, avec le clos canonial.
Et le clos canonial.
Et ce qui est intéressant, il faut quand même dire un mot du jardin, parce que ce jardin, on a des descriptions par un Anglais et un Américain. Je ne sais pas si on a le temps de lire beaucoup de ces choses, mais il faut donner envie à notre auditoire d'en savoir plus. Mrs. Craddock, en 1795, le jardin occupe une parcelle qui est encore en jardin,
qui
sert pour les élèves. Nous rappelons que c'est un collège.
C'est un collège, voilà. Et un lycée.
Et un lycée, il y a les deux. Oui, c'est ça. Donc la région et la département sont impliqués. D'ailleurs, ça serait bien si... Troisième collectivité avec la ville de Toulouse... Ouais. Et l'État faisant, n'est-ce pas, en jouant son rôle, on arrivait à relever,
mettre ensemble tout ce monde, et pas des plus simples.
Ce sont des vœux que nous pouvons former en début d'année.
Alors, que nous dit en 1785 Madame Craddock ?
Alors, pour aller vite, cette Madame Craddock qui vient d'Angleterre, « Jamais je ne vis une collection de si belles choses. Je crois même que ses appartements bien plus petits dépassent en luxe et en magnificence ceux de la reine à Versailles. » Je n'ai pas le temps de vous donner de détails, mais pour qui aime la dorure, dit-elle, il y en a à satiété tellement que pour un Anglais, cela paraît trop brillant. En termes police, ces choses-là sont dites. Elle parle du jardin, dont il ne reste rien, n'est-ce pas ? Il a été conçu sur la dernière mode parisienne des parcs à fabrique. D'une surface d'environ un arpent, un peu plus d'un hectare, il avait été modelé avec de fausses collines, des montagnes de carton-pâte et diverses figures ornementales. Ces extravagances furent diversement appréciées. Faux ours gardant à l'entrée d'une grotte de rocaille, abbé mécanique ouvrant aux visiteurs la porte d'une chapelle, une copie du tombeau de Jean-Jacques Rousseau, des cabinets de verdure gardés par des tigres. Dans l'un, une boutique de perruquier, avec la figure d'un bailli se faisant raser, et dans l'autre, la chaumière de deux bergers. Alors, elle termine, ça c'est Jung qui la rajoute. Ce jardin fut jugé au-dessous de tout mépris, car on y trouvait tout, excepté la nature. Voilà. Donc, Jean-Baptiste de Berry a fait rentrer le luxe tapageur dans des folies parisiennes à Toulouse, mais c'est une parenthèse qui n'a pas duré, puisqu'il a été décapité en 1794.
Oui, oui. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser auprès de nos auditeurs, c'est la richesse qui demeure aujourd'hui de certaines parties. Qui étaient les grandes parties de réception, qui ont été restaurées et qui offrent vraiment un espace exceptionnel d'un bâtiment de cette fin du XVIIIe siècle.
Est-ce qu'on peut dire un catalogue de tout ce qu'on pouvait voir dans les...
Voilà. Vraiment, parce que la description de Mrs. Craddock, elle est parfaite, elle décrit très exactement cet intérieur, les espaces de réception, les chambres, les alcôves, et le cabinet de curiosité qui s'étalait sur toute la partie gauche quand on regarde la façade. C'est maintenant, je pense, des parties qui sont
en bureau, en nature de bureau, hélas.
Pas seulement, bureau et l'appartement, je pense, du proviseur ou de l'approviseur. Et c'est ce qui est très, très dommage, c'est d'être sur cette place, d'avoir sous les yeux cette façade. Pour ceux qui connaissent l'intérieur, de vraiment d'avoir envie de pouvoir rentrer et de ne pas pouvoir en profiter. Voilà. C'est très dommage parce que c'est une des très très belles choses 18e à Toulouse.
Est-ce qu'on peut former le vœu que...
Oui, formons-le ardemment.
Ardemment. Déjà, nous avons fait, j'espère, susciter le rêve auprès
alors,
de ceux qui nous écoutent.
Madame du Barry a-t-elle vécu Elle était à Louveciennes, je pense.
Oui, le pavillon du Barry à Louveciennes, tout à fait. Qui lui-même a été, a été à l'abandon longtemps
oui,
au XXe siècle.
Et qui a été repris.
Oui, 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 tout à fait. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant dans tout ce que vous venez d'évoquer, le texte de Mrs. Craddock, on peut le trouver en ligne
Donc,
j'invite nos amis auditeurs de. C'est la curiosité les en prend d'aller regarder ces textes.
Et puis,
d'iconographie, beaucoup.
Et puis, il y a autre chose, l'archiviste de la ville, Ross Schach,
au 19e siècle, au milieu du 19e, oui.
A vraiment transcrit l'évaluation, enfin la visite qui a été faite de l'hôtel après la Révolution, quand l'hôtel,
il était saisi et tout à fait...
C'est un luxe incroyable de la vie quotidienne. Les parures, alors évidemment, il y a les moindres détails,
tout est resté,
il y a
bien
les tissus, c'était vraiment d'une opulence.
Mais vous l'avez dit, la maîtresse royale n'y était pas, elle était encore en vie, puisqu'elle a été décapitée.
Mais quand même beaucoup
de passage.
De luxe.
Oui, extravagant. C'est peut-être beaucoup trop pour Toulouse, mais disons que cette démonstration d'art décoratif, dont nous avons beaucoup de textes, de documents, c'est très bien documenté, je crois, l'hôtel du Barry.
Ah oui, oui,
voilà.
Oui, oui.
Il y a eu des écrits, notamment par la Société archéologique du Midi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui permettraient, serait de nature à permettre de faire un musée des arts décoratifs du XVIIIe siècle, pourquoi pas. Et ce jardin, tout en chacun restant... Enfin, je reste à ma place en disant ça, mais ça permettrait en tout cas d'évoquer aussi cette créativité dont Toulouse s'enorgueillit de nos jours avec beaucoup d'autres activités contemporaines.
Eh bien, écoutez, on va rester sur ces perspectives d'avenir, espérons-le, croisons les doigts.
Sur ses vœux.
Et ses vœux, voilà, exactement. Alors, écoutez, allez voir la façade de l'hôtel du Barry, place Saint-Sernin, à défaut de pouvoir le visiter.
Et si la porte est ouverte, demandez si vous pouvez jeter un coup d'œil.
Peut-être aux Journées du patrimoine.
Oui, je le pense.
L'année prochaine.
Bonne visite et bonne semaine.